Bonjour, il doit être 10h du matin passé et le temps de la première table ronde de ce lundi aux Utopiales qui va être sur l'empathie des machines. Alors peut-être que je vais commencer par vous présenter les intervenants et dont n'oubliez pas qu'ils signeront leur livre, ce sont tous des auteurs, dans la librairie après la table ronde. On vous le rappellera à la fin. Nous avons donc Sylvie Lainé, qui est dans la vie réelle, si on peut dire, professeur en sciences de l'information et de la communication, mais qui est aussi dans notre vie réelle à nous, un auteur de nouvelles qu'on aime beaucoup depuis longtemps et dont un magnifique recueil omnibus vient de sortir qui s'appelle « Fidèle à ton pas balancé ». Paolo Bacigalupi, auteur américain que je pense il n'est plus vraiment besoin de présenter ici, mais on le fera quand même à tout hasard. Il est l'auteur de « La fille automate », qui est un livre qui a eu plein de prix, beaucoup de succès mérités, et de beaucoup d'autres livres, y compris des livres pour jeunes adultes et enfants, qu'on trouve pour la plupart aux éditions du Diable Vauvert. Je ne vais pas vous faire une liste, ce serait un peu fastidieux. Ariane Gélinas est une auteure canadienne qui travaille plutôt dans le domaine du fantastique. Son dernier ouvrage, et c'est là qu'on voit que mon cerveau est un fromage suisse, s'appelle « Les cendres de Sedna » aux éditions à lire. Et elle est aussi très active comme, disons, rédactrice en chef de revue, éditeur. Hein. Pierre Bordage, qui à une époque a été le coordinateur de ce festival, qui est un auteur prolifique, admiré à juste titre. Il est tellement prolifique que bien sûr, quand il y a beaucoup de choses, on arrive à se souvenir de rien. Mais c'est le premier livre qu'il a fait aux éditions de La Talente, ici à Nantes, était Les Guerriers du Silence. Mais depuis, mon Dieu, il y a eu de tout, des tas de choses magnifiques. Le plus récent s'appelle Boxing Dolls. Mais il y a bien sûr beaucoup d'autres choses. Et je crois quand même, je ne veux pas vous faire l'insulte de vous détailler la carrière de Pierre Bordage. Donc l'empathie avec les machines, voilà un thème qui, quand on me l'a dit, m'a suscité quelques interrogations. Et en fait, c'est quelque chose de peut-être surprenant, mais de très présent. C'est qu'il y a des circonstances où on voit que les gens préfèrent plaindre une machine que plaindre un humain. Par exemple, encore ce matin, je regardais une vidéo sur Internet. Dans je ne sais quel but, on avait mis un petit robot au milieu d'un centre commercial japonais. Les enfants venaient curieux le regarder, puis certains d'entre eux venaient lui barrer la route. Ils faisaient des choses gentilles au début, la ronde autour du robot, ou des choses comme ça. Ensuite, ils deviennent un peu plus méchants quand ils sont en groupe. Et bon, enfin, ils peuvent aller jusqu'à cacher les yeux du robot ou le taper un peu. Mais ce qui est surprenant, c'est donc ils embêtent le robot, c'est clair, hein, ils sont pas gentils avec le robot. Mais les réactions des internautes à cette vidéo, parce que bien sûr, dans notre monde magnifique, on a maintenant des réactions des internautes, c'est en général de dire « mais ils méritent des torgnoles, ces gamins », alors que, bon, quand même, nous ne sommes plus dans ce monde. Donc voilà, on est capable, des gens sont capables, peut-être pas tous, de sentir plus de pitié pour une machine que pour un humain, parfois. On va essayer de voir comment et pourquoi, et puis d'élargir le propos peut-être. Une chose qui rentre là-dedans, et peut-être que certains d'entre vous étaient là hier soir pour écouter parler de Philippe Dick, une des œuvres les plus célèbres de Philippe Dick est celle qui a été adaptée comme Blade Runner, donc dans laquelle il y a des animaux familiers qui sont en fait des robots. Et on commence à les avoir dans notre monde réel. Alors peut-être, je ne sais pas, on va commencer par Sylvie. Et comment on peut expliquer qu'on s'investisse autant qu'on ait un chat robot, par exemple, ou autre chose de ce style?
Oui, c'est vrai que dans une de mes nouvelles, il y a un chat robot. Mais en t'écoutant avec l'anecdote des gamins qui embêtaient le petit robot dans le centre commercial, je me disais que si les gamins avaient tourné autour d'une voiture, une voiture bête, hein, une voiture de maintenant, et avaient commencé à lancer des cailloux dans les vitres, il y aurait aussi des gens qui auraient dit « sale gosse, pourquoi on ne leur donne pas une fessée ?» Donc, du coup, ça me fait réfléchir au sujet d'une manière un peu différente. On n'est pas en train de parler d'affection pour la machine. L'affection pour l'empathie et l'affection, ce n'est pas la même chose. Et des objets sur lesquels on investit affectivement et pour lesquels on a des émotions qui ne sont pas tout à fait rationnelles, il y en a plein. Il y a plein de gens qui aiment leur voiture, surtout des hommes, mais on peut avoir de l'affection pour des objets parce qu'ils vous évoquent des souvenirs, parce qu'ils sont liés à des circonstances ou à des personnes. On projette ce qu'on veut sur n'importe quoi. On peut avoir de l'affection. Pour des animaux, c'est évident. On se rapproche peut-être plus de l'empathie, déjà, et j'aimerais bien qu'on s'en rapproche plus. Mais pour les objets, c'est extrêmement courant. Il n'y a qu'à voir les drames au moment de la répartition des héritages au sein de familles qui pouvaient être très liées avant que ces questions liées à des objets ne se posent. Donc, c'est pas parce que c'est des objets que c'est surprenant qu'on s'y attache. Après, si on parle d'empathie, on parlera peut-être d'autre chose.
Okay, I think that when we're observing something like the YouTube video where you see the children bullying the robot, there's at least one layer I see where there's the initial urge to connect with the robot, which probably has to do with its shape, that has to do with its behaviors, that allows us to project a certain humanity onto the object, onto the robot. It's not there, but we imagine it onto that. And that's a very human impulse. We find, I was talking about this on another panel, we'll find faces in clouds. And how do we find a face in a cloud? There's no face in the cloud, but we project it. We find those details. And in the same way, when robots are even... if they have the general similarities to a human being or to a smaller, you know, animal or something that it connects to a set of feelings, but it does nothing to violate those feelings either. It does nothing to make you do anything other than imagine a humanity into it. So as you imagine that humanity into the robot, it doesn't have enough agency to poke you in the eye or to fight back in the case of the kids. If we saw it fighting back against the kids, we might change our sense of whether or not it's a victim. We might change our sense. How can a robot even be a victim? And yet we've decided that it is the victim because it has some general characteristics of the human, just enough characteristics, and yet not too many to make it threatening or problematic for us. And so I think that there's that initial human impulse to sort of write ourselves onto the world. And so that's the first thing that I sort of see in that dynamic. But then the specific second thing is that it is powerless. And we like powerless objects. We can be more empathetic towards that imagined victim than we can be towards something that we believe is very powerful. And so I think there's a combination of just enough human characteristics and the powerlessness of the robot in that moment that makes us connect to it more tightly.
Oui, je pense aussi que ce mélange, cette ambivalence de caractéristiques à la fois humaines et plus du côté des objets, c'est vraiment ancré dès l'enfance aussi. On a juste à penser aux rapports paradoxaux qu'on va avoir avec une poupée, par exemple. Et puis, disons, une poupée qui sait parler, là, on va un petit peu la mécaniser. Puis, on va avoir tendance, en tout cas, je suis sûre qu'il y en a qui vont se reconnaître là-dedans, tantôt à la chérir et tantôt à la détruire, cette poupée-là. Et puis ça rejoint un peu le rapport ambivalent qu'on peut avoir avec ces machines anthropomorphisées-là, c'est sûr. Et cette dualité-là, je trouve qu'on la retrouve aussi, entre autres dans le thème du double, qu'on retrouve pas seulement en fantastique, mais avec l'idée d'à la fois adorer. Il y a un peu de narcissisme là-dedans, une forme d'adoration. Et puis, on sait souvent comment ça se finit, les histoires de double. Hein? Il faut juste qu'il en reste un des deux. Je pense qu'on joue aussi là-dedans, dans ce rapport qui n'est pas toujours empathique, mais qui peut l'être également. Puis, d'ailleurs, je rebondis sur le chat mécanisé. J'aimerais beaucoup, ayant de très vieux chats malades, alors j'aimerais beaucoup d'ailleurs cette possibilité-là qu'elle soit envisageable d'ici très, très bientôt, disons, là, parce que je trouve que c'est quelque chose de très de fascinant. L'idée de... Je serais très à l'aise d'avoir mes vieux félins, mes versions robotiques pour passer le restant de mes jours avec eux, réellement.
Bon, bonjour. Je crois que Paolo évoquait la notion d'anthropomorphisme, c'est-à-dire la projection humaine sur les machines. Et je pense qu'il y a un distinguo à faire entre l'objet traditionnel sur lequel on investit de l'affectif et la machine, qui est un truc qui doit marcher. C'est-à-dire que moi, je suis très... Le rapport que j'ai avec la machine, c'est que si ça ne marche pas, ça m'énerve. Parce que c'est censé marcher, une machine. C'est censé être fiable. Donc quand ma voiture ne démarre pas, je hais ma voiture. Quand elle démarre, je trouve ça normal, et quand elle ne démarre pas, je hais ma voiture. Quand mon ordinateur me plante, je hais mon ordinateur. Donc c'est le rapport que j'ai avec la machine, ce n'est pas du tout une adoration de la machine. En fait, pour moi, il faut que la machine fonctionne. Donc ce rapport, c'est ni projection, ni transition, c'est juste le fait qu'une machine, c'est fait pour servir. Et que quand ça ne sert pas, ben, c'est très énervant. J'ai une petite expérience des machines. Un jour, un ami m'a emmené au casino, pas au supermarché, hein, le vrai casino, celui où on joue de les sous. Et il y avait une roulette mécanique. Et la projection des gens sur la roulette mécanique était tout à fait fascinante, parce que d'un seul coup, c'est une sorte de déification de la machine, c'est-à-dire qu'elle a le pouvoir de vous bénir ou de vous rejeter. Et tout le monde est suspendu à cette petite boule qui tourne autour du cercle des chiffres. Et c'est assez incroyable la projection que les gens ont sur cette machine, parce qu'elle a une fonction quasiment divine à ce moment-là. Et donc voilà, c'est plus l'empathie non plus, c'est quasiment de l'adoration. Et je me demande si par rapport à la machine, au monde mécanique, on ne va pas vers une forme d'adoration qui serait un nouveau veau d'or, en quelque sorte biblique, et qui nous conduirait aussi dans des impasses. Donc je suis assez anti-machine, finalement.
One thing that's interesting about, to me, when you talk about my car not working or my computer not working, is how many times when those things are happening that I, even in that moment, I'm ascribing a humanity to the object, that it's doing something to me, that it's being stubborn, it's fighting me somehow. It's actually out to get me right now, and which isn't true at all. And yet I still ascribe a certain set of human characteristics to the object. That computer, how dare you? and that I think that's sort of an interesting thing, that we continually are putting sort of human characteristics, even if we aren't saying that they're alive or they have feelings, we actually are, and we don't even realize it. It's just this, oh, you're frustrating my needs right now. How dare you? Now I hate you. So that's interesting. Yeah.
On a beaucoup investi de l'énergie spirituelle sur des objets. Il y a eu toute une période où l'humanité était animiste, ou une partie de l'humanité au moins. Et c'est peut-être des traces de ça qu'on a quand on parle de superstition, par exemple. Et moi, je me demande, en écoutant Pierre, si la relation qu'on a avec des machines qui incarnent le hasard, c'est pas une espèce de respect d'une force spirituelle qu'on projette. C'est le hasard. Hein. Et est-ce que l'univers a à nous dire à nous, par le biais de cette machine, dans laquelle des forces spirituelles s'incarneraient ? Alors après, le petit robot qui est au milieu du centre commercial, c'est quand même un objet troublant, parce que c'est une machine qui sert à rien. On n'en attend rien. Elle n'a pas de rôle à jouer, donc on n'a pas de raison de la détester. Et on se retrouve en face d'un truc qui bouge. Et il faut bien trouver un sens à ça. On aime bien trouver du sens aux choses. Et qu'est-ce que ça peut avoir comme sens ? Ben, si on n'en trouve pas, on a peut-être envie de la casser.
À vrai dire, les enfants ne cassent pas le robot dans cette vidéo, mais ils l'embêtent sérieusement. Ça pose une question quand même, ce que vous dites. Je pense qu'on n'a pas le même rapport avec tous les objets, et qu'on n'arrive pas à se projeter sur n'importe quel objet. Donc, à quel point est-ce qu'il faut qu'un objet probablement animé nous ressemble ou ressemble à un animal pour qu'on commence à avoir ces rapports soit d'hostilité, soit notre sujet plutôt, disons, de pitié, de sympathie, d'empathie pour une machine ou un objet qui ressemble à une machine.
Je veux bien parce que, en fait, en arrivant dans cette table ronde, je me suis dit que le sujet était un paradoxe absolu. L'empathie, c'est la capacité à éprouver les émotions de la personne qui est en face. Et je ne connais pas et je n'imagine pas, sauf en dehors de quelques grands récits de science-fiction, de machines qui éprouvent la moindre émotion. Donc, partager les émotions qu'éprouve un truc qui, pour l'instant, par définition, ne peut pas en éprouver, c'est quand même curieux comme point de départ. Ça veut dire que l'empathie ne peut pas être de la vraie empathie, si j'ai raison dans ce que je dis, et que c'est une pure projection complètement artificielle.
C'est effectivement ce que disait Paolo, par exemple. Mais cette projection, je pense que nous ne pouvons pas la faire sur n'importe quoi. Somebody, quelqu'un veut...
Ouais,
Ariane?
Oui, moi aussi, je trouvais ça intéressant, l'idée que ça fonctionne un peu à sens unique. À part peut-être dans quelques cas, semble-t-il qu'il existe des robots qui sont capables de détecter les émotions puis de réagir en conséquence. Mais ça reste que on va vraiment avoir tendance à les anthropomorphiser pour, je pense, ressentir de l'empathie davantage pour eux. Par exemple, un robot qui semblerait inspiré d'une créature de Lovecraft pourrait peut-être moins nous susciter l'empathie qu'un qui aurait une forme plus humaine. Alors, j'ai l'impression qu'on joue pas mal là-dessus pour l'idée de l'attachement. T'sais, c'est pas pour rien, par exemple, que si on parle, par exemple, de poupées gonflables ou de choses comme ça, ben ça ressemble pas à des créatures de Lovecraft.
I think that one thing that's interesting, and it's very interesting what you just said about the idea that we're creating an illusion of empathy with our own inside of our own heads. We think we're being empathetic with the robot. We think we're being connected to it. And in fact, it's this pure projection. And I think about that, we do that in other cases where you see that with animals a lot of times. We'll say that we understand the feelings of this animal. And we see this a lot actually with people, especially who try to train wild animals as pets. And every once in a while, something will happen and the pet will attack. And it's because the person turned their back, or because the person was squatting down, and so their large cat that they had either a bobcat or a mountain lion or whatever the thing that they had trained and thought that they had raised from a cub, suddenly they had become prey, and they thought that they were friends with the cat. They had projected all sorts of values and meanings onto that wild animal, and then when the lion or the bobcat or whatever attacks, they're surprised, they're shocked, and they feel offended that the map that they'd created about what was going on inside of that cat's head was not true. And that's something that, like, I'm very interested in. And then this idea, when a lot of science fiction stories, it's the sort of the most interesting part of the science fiction story is the question of, Does this robot have feelings for me? Do I have feelings for the robot? Does it have feelings for me? Are those true feelings? And how would one know? And it's the most profound version of the other is this thing that it seems to be functioning according to rules that you don't fully understand, but you want to believe you understand.
Et alors si on reprend la question sous l'angle de projeter de l'empathie qui ne peut pas être une réelle empathie, on arrive quand même à une situation un peu paradoxale qui est une situation que les anglo-saxons appellent « the uncanny valley », hein, Paolo, c'est la vallée de l'étrange en français, ou de l'étrangeté. C'est-à-dire qu'on a constaté justement que quand on essayait de faciliter le lien affectif entre une intelligence artificielle ou un robot ou une machine qui a une allure vaguement humaine, ce n'était pas forcément en la rendant de plus en plus semblable à l'humain que le lien allait être de plus en plus fort. Et en fait, il y a même un moment où on arrive à des créatures qui ressemblent tellement à des humains qu'elles deviennent assez difficiles à différencier au premier regard. Ça s'applique pas seulement à des créatures complètes, c'est vrai pour une prothèse, par exemple, ou pour tout un tas d'autres attributs humains. Et si la ressemblance est trop forte et qu'on sait intellectuellement qu'on a affaire à une machine, on éprouve un sentiment de malaise qui devient une forme de rejet. Parce que, moi j'en reviens toujours à ce qui me semble essentiel, on ne sait plus quel sens attribuer à cette chose qui est en face. C'est troublant, ça ressemble trop à un humain, alors qu'intellectuellement on sait que ça n'en est pas un. Donc les développeurs des petits robots que l'on croise souvent ici, Nao, enfin bon, on en a vu plusieurs.
Cette année, on a un truc qui s'appelle Pepper, qui doit être là-bas derrière, enfin qui était hier.
On fait en sorte qu'il ne mesure pas 1m70 ou 1m80, on choisit une autre taille. On aime bien leur donner une allure humaine, ils marchent sur deux jambes en général, ils ont deux bras... Ils ont une allure humaine, mais ils ressemblent plus à des Pokémon ou à des... On ne peut pas s'y tromper. Même s'ils ont la taille d'un enfant, ce n'est pas des enfants de manière évidente. Et ça marche mieux.
Alors, je pense que le rapport empathique avec la machine est carrément impossible. Je pense qu'il y a un rapport de suggestion ou de création. C'est-à-dire que j'ai l'impression que nous remettons de plus en plus entre les mains des machines, si main il y a, et qu'il y a une sorte à trouver une sorte de rapport avec la machine qui soit à la fois libérateur ou esclavagiste. Et je pense que, je ne sais pas si vous avez vu le livre de Jean-Michel Truong qui s'appelle Totalement inhumaine, où il dit que finalement l'intelligence artificielle va finir par avoir une sorte d'initiative qui fait que la vie pourrait se transmettre. C'était glaçant comme conférence ce jour-là, c'était à Poitiers dans les années 98, où la vie pourrait se transmettre sur des supports un peu plus fiables que l'humain, moins organiques et moins émotionnels, et donc plus le silicium et ce genre de choses. Et donc, je pense qu'on est dans cette bataille-là entre la suggestion et la création, c'est-à-dire, est-ce qu'on va se remettre de plus en plus dans les mains des machines? Parce qu'effectivement, si notre ordinateur ne fonctionne pas, on est dans la merde, parce qu'on est tous connectés, ceci, cela, des réseaux sociaux et tout le bazar. Les avions, les trains, tout fonctionne avec la machine, ou l'aspect machinal en tout cas. Et donc, j'ai l'impression qu'on est sur un point de bascule entre le moment où la machine va prendre l'empire sur nous, ou si nous allons garder le contrôle de la machine. Et c'est de moins en moins évident, à mon avis. J'ai l'impression que la machine est aussi la mesure des insuffisances humaines, parce que je pense que notre humanité n'est pas vraiment développée non plus. Et que cette projection dans la machine fait que nous montre à quel point nous sommes, nous, incomplets, fragiles, et qu'il y a peut-être d'autres voies explorées, attention, d'autres voies explorées que la voie machinale, qui est, à mon avis, et là, je ne sais pas où ça va nous entraîner, mais qui est, à mon avis, une continuité des religions, d'une sorte de Dieu extérieur à nous. Évidemment, la religion est... l'anti-spiritualité, à mon avis, c'est une captation matérielle de la spiritualité, et j'ai l'impression que la machine, c'est une sorte de prolongation de cette réification de Dieu, c'est-à-dire c'est Dieu incarné en mécanique, duquel nous dépendons de plus en plus, avec une sorte de religion de la machine qui est en train de se mettre en place. Donc voilà, le rapport empathique, il est assez loin, à mon avis.
Oui, on est peut-être même dans l'inverse du thème de départ. Paolo, vous aviez quelque chose à...
I was sort of thinking about how when we see a robot, or and I'm thinking actually about artificial intelligence, and when we sort of want to, you know, believe that there's a god there, or that there's some godlike quality to this artificial intelligence that might get stronger and better than us or smarter than us. One of the things I remember reading an article a while ago about an artificial intelligence for war games, for naval battles, basically. And and they had been slowly improving the AI on this battle bot, essentially, and running different war games against it. And there was a moment when the AI got better than the people at coming up with naval strategies, but its naval strategies involved creating many, is given a budget and it's to build boats in order to go to war on the water. And its strategy was to create many small, individually piloted suicide boats, and that it would create enough suicide boats that it could destroy everybody else's navies. But it was going on the assumption that each individual person who was piloting a suicide boat was completely disposable, which is true in war, right? People are disposable, and yet the AI made that explicit. It said, no, every single one of you is disposable. And so the solution was good. It always won in the wars, and yet its solution was also horrific. It was an inhuman solution to say, oh, no, we're only going to build suicide boats. That's all we run is suicide boats. And that was to me same uncanny valley. It's like a human. It's not doing it the way we want it to, though. It doesn't value us the way that we value one another. It doesn't even value our enemy the way we value our enemy in some ways. There's a fair way to kill your enemy and an unfair way to kill your enemy. And the idea that we have these strange values that the AI, it didn't believe in them at all. And it's that moment where you start feeling like, wait, I thought I was connected to this artificial intelligence. We built it, and yet now what we see it doing and the way we see it solving problems is a horror.
Mais je crois que, excusez-moi, je vais essayer de revenir sur le thème de départ, et qu'effectivement, vos commentaires montrent à contrario que nous ne sentirons pas de l'empathie pour ce genre d'intelligence artificielle qui utilise systématiquement le suicide de tous ses soldats pour gagner, et que nous allons sentir une empathie pour des êtres que nous percevons comme moins puissants. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, le robot dans le centre commercial ne se bat pas, ne réagit pas contre les enfants, et peut-être comme moins responsables. La manière que j'ai de le voir, c'est si on fait un parallèle entre robots et animaux, si même les robots humanoïdes ressemblent un peu plus à des Pokémon, donc un peu plus à des animaux finalement, c'est qu'on les voit comme des êtres innocents. On les voit comme des êtres animés, mais qui n'ont pas le péché originel, hein, pour parler en termes chrétiens. Mais c'est...
One of the things about the way that we design robots and how close or how distant they are from us is how much that makes it easier for us to project. I remember reading a book about comic theory, comic books, and it was interesting that there was a sort of a continuum of where a comic book character becomes highly where the reader becomes highly connected to the image of the comic book character. And at one end you have a very abstract version of this, which would be to represent a face, which would be two dots and a line, and that can be a face, certainly. And at the other end of that spectrum you have something that's completely rendered realistically, which then also is actually somewhat remote, but there's a sweet spot in the middle where you end up with enough expression in the eyes, but still a fairly blank face. It's still just basically a circle with a few extra, a little bit of movement in the eyes, a little bit, and then you get to something like a Pokemon, which is it's got the features that we need. It's got the eyes, it's got the mouth, it's got the nose, but they aren't so rendered that we start filling in all of the rest of the details. And that's where I think that that's the beauty of these somewhat realistic robots. That's where we feel connection. I was actually thinking about, as we get closer and closer to a more perfect android in terms of a robot or a machine, that's where I think of, there was a person who had an arm attached to them after they'd had an arm severed, and there was an arm transplant. And essentially, when they looked at their own arm that had been transplanted, somebody else's arm transplanted onto theirs, they found it horrific and wanted it actually cut off again because it was too it was too horrifying to look at something that was real but was not theirs, was not of them. And I think about that with highly realistic robots. There's some moment that it triggers too many feelings of horror. We can't connect to it anymore. We can't project ourselves onto it. It pushes back at us somehow and says, no, no, I actually have some inherent state that I do not have control over and that I cannot project myself into it anymore. And so, yeah, that was, sorry, I can keep going on.
Peut-être que, comme il est dit dans la Bible, que Dieu a créé l'homme à son image, que les hommes vont créer des robots à leur image aussi. C'est ce que je disais tout à l'heure par rapport au complexe de création, quoi. Et le complexe de création se finit en général assez mal. Quand on regarde les mythes de type Prométhée ou Icare ou ce genre de choses, c'est-à-dire plus on veut s'élever vers la lumière, plus on veut s'élever vers l'acte créateur et plus ça devient dangereux. Donc on verra bien ce qui se passera par la suite, mais... Je pense qu'il y a vraiment une réflexion à mener sur le rapport qu'on a avec ces machines et ces inventions, quoi. Une vraie réflexion, et non pas se laisser emporter par l'aspect commercial des choses, parce que je pense qu'il y a cet aspect-là aussi qui va être très important. Est-ce que l'aspect commercial, l'aspect pratique, va nous laisser le temps de la réflexion ? Ça, c'est une question qui est... Ça peut être l'espace où s'installent les auteurs de science-fiction, d'ailleurs, c'est-à-dire réfléchir sur l'implication que les machines ont sur notre vie. Et ce point de bascule où nous devrons à tout prix sauvegarder notre liberté.
Ouais, je trouve ça intéressant aussi d'un point de vue mythologique avec Prométhée. Puis aussi, on a beaucoup de créatures mythologiques qui sont justement mi-homme, mi-animal, chimérique, hybride, tout ça. Alors, ça touche à quelque chose d'important, cette hybridité-là. D'une certaine façon, puis c'est un peu comme si on retrouvait ça transposé dans certains cas avec les machines aussi. Et puis ça peut inspirer forcément, si on pense au Minotaure, on peut se retrouver dans un côté plus horrifique avec quelque chose qui nous dépasse, donc c'est pas étonnant que justement il soit associé au labyrinthe avec tout ce que c'est.
Oui, bon, je vais dire des trucs bizarres, mais quand j'entends Pierre dire, par exemple, Dieu a forgé l'homme à son image et l'homme va peut-être à son tour devenir créateur, je me dis, mais ça fait un bout de temps qu'on fait des bébés. Donc, on est déjà des créateurs de forme à notre image et ça marche pas si mal. Et puis, plus ou moins bien. Et puis, il y a quand même aussi un truc que je me dis depuis... Ça fait un moment qu'on discute autour de ces questions avant même cette table ronde. Et on est quand même dans une situation qui est étrange. Moi, j'aimerais bien qu'on m'aide à comprendre ce qui se passe. Parce que on est dans une société où il y a plein de gens qui ne mangent pas à leur faim, où il y a des SDF, des migrants, et la sympathie vis-à-vis d'eux est loin d'être universelle. On est dans une société où il existe une quantité d'animaux et où la plupart des espèces animales sont en voie d'extinction et où, en gros, il n'y a que celles qui ont été domestiquées qui s'en tirent bien pour une partie d'entre elles et l'autre partie, c'est celles qu'on mange et qu'on fait vivre dans des conditions atroces sans manifester tellement d'empathie vis-à-vis d'elles. Dans notre environnement actuel, on n'a franchement pas besoin d'aller inventer des machines pour trouver des êtres vivants vers lesquels on peut projeter de l'empathie. Alors, pourquoi est-ce qu'on est là à réfléchir sur combien d'empathie, pour quelles raisons, comment ci, comment ça, alors qu'on n'a rien à faire des hommes qui sont à côté de nous. Voilà, c'est tout.
Well, and I think that's sort of the beauty of being a human being, is that clearly, like, you know, we could feel empathy for the poor, but fuck that. We're terrible people. We're terrible. And one of the things I think that this is, we can have empathy for our dog, we can have empathy for, you know, the cute little robot, and I think that there is some quantity of, we care about those things because they're controlling and they don't put, we control them and they don't push back at us. They don't have any other drives that, and I think that this is the thing about, you know, the robot being bullied by the children, is that it doesn't have enough drive to sort of assert itself in any way. A dog doesn't have any way to assert itself back at us again, particularly when it's a pet. And we actually like that. That's the reason why we want these objects in our lives. One of the things that's interesting to me as a writer is that I can kill as many people as I want in my stories, but if I kill somebody's dog, oh, it's the worst thing in the universe. I have just truly committed a sin. And that's that moment where you're thinking, but I just murdered all these people and you didn't care a bit. And it is interesting to me that's where you start thinking, like, the reason why do we want these particular objects in our lives? Why do we want a pet in our lives? For the unconditional love it provides. And I think that this is why making children actually isn't quite satisfying, is because they don't always love us. And that is a frustrating thing. But I made you, and now you're ungratefully, like, shouting at me, you damn teenager. And so I sort of, when I think about, like, why we want to create these objects, I do go back to this sense of this strange feeling of we want to be loved by some object out there. We are lonely, I think, in some way. We're lonely for some level of acceptance. And so that's why we want these, the pet or the robot, or we want to connect with these things that won't fight back at us. We want to be accepted completely as we are, I think, in some way. And no matter how much you might give to the poor, or that you might want to do something like be a decent human being, on some level you're actually selfishly really desiring to be adored, I guess. And you're hoping for that, and you can project that out into the inanimate objects around you, you can project that onto a pet, but you don't get that from another human being, because a human being actually has power in its own agency.
C'est... J'approuve énormément ce que tu viens de dire, et puis ce que Sylvie a dit aussi, ce qui prouve que la machine, d'une façon ou d'une autre, ne donnera jamais le bonheur. On ne trouvera pas le bonheur par la machine, pas plus qu'on ne l'a trouvé par les religions, pas plus qu'on ne l'a trouvé par des éléments extérieurs à l'être humain. C'est plutôt partir de l'intérieur qui me paraît important. Se faire accepter, c'est d'abord s'accepter soi-même, je pense, c'est la priorité. Et donc, je pense qu'on est parti à l'envers, quoi. C'est-à-dire qu'on est, et c'est pour ça que je pense que les machines ne sont que la mesure de notre inhumanité, en fait. La mesure matérialisée de notre inhumanité, parce que nous sommes simplement incapables d'éprouver de l'empathie pour nos semblables, pour les migrants, pour les SDF, pour tout ça. C'est une injustice totale dans le monde. Et on essaye de compenser ça par la création de machines de plus en plus perfectionnées. On va prendre la médecine, par exemple. J'espère qu'il n'y a pas de médecin parmi vous. La médecine est de plus en plus déshumanisée et de plus en plus mécanisée. Et donc, du coup, les médecins ou les chirurgiens, les autres, délèguent leur art, finalement. C'est-à-dire ce qui est un art humain, qui est l'art de la médecine, qui est l'art de la compréhension et de l'empathie aussi vis-à-vis de son patient, le délèguent aux machines. Et ce sont les machines qui s'occupent de tout. Donc, je pense qu'on est totalement à l'envers, quoi. C'est-à-dire que la machine devrait être au mieux une sorte de moyen de se sentir mieux de temps en temps, c'est-à-dire une aide. Hein. On a parlé du bras articulé tout à l'heure, ou du bras artificiel, ou ce genre de choses. La machine peut avoir son utilité, mais il ne faut pas la prendre à l'envers. Il ne faut pas la prendre comme étant la solution à tous nos problèmes, parce que nos problèmes, ils sont à l'intérieur de nous. Et ça s'adresse d'abord aux êtres humains. Nous sommes des humains qui parlons aux humains d'affaires humaines.
Sylvie ?
Oui, je crois que la gentillesse, de manière générale, n'est pas une valeur dans notre société actuellement. Et que, d'ailleurs, quand on dit de quelqu'un il est gentil, en général, c'est légèrement condescendant et un peu péjoratif, ce qui est triste quand même. Et à côté de ça, les valeurs que l'on... Mais au sommet, c'est l'efficacité, la compétence. Et il y a beaucoup de professions qui sont menacées. C'est peut-être particulièrement choquant quand il s'agit des médecins, mais ça concerne aussi les enseignants et tout un tas d'autres métiers qui sont des métiers dans lesquels on a un rôle particulier à jouer du point de vue de la prise en compte de la personne qui est en face de ses émotions, de la prendre dans son intégralité et pas simplement comme un système à réparer ou à éduquer. Et, mais comme cette dimension humaine n'est pas valorisée et que la compétence du point de vue du diagnostic examiné, de l'imagerie médicale, examiné des tracés, un rythme cardiaque et tout un tas d'indices et les faire exploiter par des machines, du point de vue de la performance, objectivement, elles sont au moins aussi efficaces que les médecins et elles le seront sans doute bientôt davantage. Par contre, il n'y aura aucun dialogue, aucune prise en compte de la vie, des souffrances psychologiques éventuelles, de l'environnement affectif. Mais comme notre société considère que ce n'est pas important, eh bien, à nous de nous débrouiller avec ça maintenant. Mais je pense qu'il va falloir qu'on réagisse un de ces jours, parce que on va se retrouver dans une société où la gentillesse, l'affectif, la solidarité, l'intérêt humain comptent de moins en moins. Les machines sont de plus en plus efficaces. Donc, comme on considère que c'est la seule partie importante dans le rôle que nous avons à jouer au sein de la société, eh ben, du coup, nous n'avons plus de raison d'être.
Ça, et ce nous disait Jean-Michel
dans Truon. Un premier temps, nous n'avons plus. Non, mais je ne vais pas aussi loin que Jean-Michel, au sens où je le dis en espérant bien qu'on va réagir. Mais on va être obligé de réagir quand on n'aura plus de travail, les uns et les autres. Parce que si on ne met pas en place des mécanismes où on a un rôle à jouer, où on existe indépendamment de notre efficacité et d'un travail qui, lui, peut être remplacé par celui des machines. Si on ne remet pas au centre le vivre ensemble, la compréhension et ce qu'est réellement l'empathie au sens premier, eh ben là, on sera mal barré. Mais moi, j'y crois encore à l'avenir de la race humaine, à condition qu'elle remette l'empathie en premier. L'empathie avec les humains, je vais proposer ça aux organisateurs pour l'année prochaine.
En attendant... En attendant, tout le moins, dans tes nouvelles, on se sent très bien. Tu défends cette idée d'empathie et d'humanisme. Alors, on peut te lire en attendant.
Merci.
Il y a une phrase du Christ, alors on va parler du Christ, qui dit « Ce que vous faites au plus petit d'entre moi, c'est à moi que vous le faites. » Je pense qu'on ne peut pas s'exonérer à aucun moment de ce qu'on ressent pour les êtres humains. Parce que ça a une influence sur, à mon avis, toute la trame humaine. Je pense que l'humanité, c'est une sorte de trame. Et que dès qu'on est dans le déni d'un autre être humain, c'est toute la trame qu'on est affecté. Ça va loin, finalement, par rapport à l'empathie aux machines.
Peut-être que maintenant, il serait temps de prendre des questions du public. Et je vois qu'il y a plein de mains qui se lèvent, donc le micro va circuler.
Moi, c'était pour revenir là tout à l'heure par rapport au fait qu'on peut avoir de l'empathie, enfin, qu'on aime bien les animaux ou les robots parce qu'ils vont dépendre de nous, ils ne vont pas se retourner contre nous. C'est aussi en reprenant un point de vue chrétien sur le côté, ils sont innocents. On les considère comme innocents alors que l'homme va être touché par, on va dire, le péché originel. Il sera forcément coupable d'un côté, donc on peut se dédouaner par rapport à ça.
I think that there's something there in the in when we're looking at a robot or we're looking at any machine. There was another example on another panel of even just a very automated arm moving, and if you moved the thing that it was supposed to be picking up, you felt bad for it. You connected to it, and so it. It did have innocence. The simple movement of this mechanical arm trying to grab something that had been moved away, it was innocent. It had been violated. But when we look at the poor, we look at the refugees, we look at other people, and there is this moment where we say, oh no, I have a reason for you being in this bad position. You didn't work hard, or you weren't responsible, or well, you messed up your own country, or whatever that excuse is. Then we create other reasons, and there is some sense there. Yeah, I think so. That because the robot or the machine has a blank history, we can ascribe only its best qualities to it. But a human always has history, and so we can always find an excuse to separate ourselves. Oddly, we can separate ourselves far more easily from the human than we can from the machine.
J'ai une confidence à vous. J'ai une confidence à vous faire. Il n'y a pas de péché originel. Hein. C'est une connerie.
Il fallait que ce soit dit.
Moi, j'avais une question sur l'avenir des machines ou des robots. Comme vous avez expliqué que l'empathie serait amenée à poser un grand problème dans les années futures, notamment par rapport à leur humanisation ou non, je me demandais si le futur très lointain de la machine ne serait pas justement une machine uniquement à des buts utilitaires, une machine complètement déshumanisée et uniquement utilitaire. Et d'ailleurs, si on regarde autour de nous, les objets qui ne nous dérangent pas et qui sont mécaniques sont des objets qui ne sont pas du tout humanisés, comme nos téléphones, nos ordinateurs. Ou quand même on peut se projeter quand ils ne fonctionnent pas, on se projette uniquement parce qu'ils ne fonctionnent pas et on les ramène toujours à leur utilité.
Fonction va... principale.
Oui, c'est ça. C'était la question. Est-ce qu'on ne va pas terminer dans quelque chose d'uniquement fonctionnel ? Ce serait notre
passe
de sauvegarde.
Probablement la meilleure chose à faire. Regarder la machine comme étant à notre service et non pas que nous soyons au service de la machine. Mais je pense que le point de bascule, il est très, très délicat là, à trouver.
Et puis ça rejoint aussi des discussions qui se tiennent ailleurs sur qui est-ce qui décide, en gros, qui c'est le chef. Parce que dire qu'on laisse faire le travail à la machine, à un moment donné, il y a des priorités à définir, des orientations à donner. Et je pense qu'on a vraiment intérêt à veiller à ce qu'elle reste entre des mains humaines et que justement elle ne soit pas uniquement fonctionnelle et optimale au sens statistique, au sens optimisation.
So one of the things that's really interesting to me is that when we're in the Western context, we talk about robots in a certain way. But I remember being in Japan at one point. And in Japan, the aesthetic feeling towards the idea of mechanization and robots is very, very different. Robots are perceived as being friendly, as being a companion, as being... and technology generally is actually perceived in a fairly positive light. And so the idea that you know, in Japan, the idea is that, yes, there will be more and more mechanization. There will be more and more. We will be surrounded by more and more mechanical objects, but they'll be friendly. And that's actually the intention, that they will be programmed to be friendly and that it will be a friendly world that we build around us with these robots and mechanical objects. And that's always interesting to me because it's so much the same idea. Will we be surrounded by mechanisms and will that be a horror or will we be surrounded by them and will it actually be a delight? And I think some of that actually comes back to our intentions as creators.
Bonjour. En fait, moi j'ai une question sur qui concerne en fait le rejet de la machine et le respect. En fait, ça rejoint aussi le droit animal et le droit des autres êtres humains. Et en fait, j'étais en train de me dire, parce qu'il y a beaucoup de séries en ce moment qui passent, qui justement décrivent des machines qui ressemblent énormément à des humains, qui sont quasiment humaines dans leur comportement, dans leur réflexion, qui même arrivent à développer des sentiments. Et est-ce que justement ce rejet ne viendrait pas du fait que si une machine devient humaine, elle aura les mêmes droits qu'un humain, au final ? Ou comment est-ce qu'on va la considérer si elle commence à se comporter comme un humain en étant un amas de métal, en fait, tout simplement ?
Oui, de toute façon, c'est une brève intervention. On a au Québec un film que je trouve intéressant qui est sorti il n'y a pas longtemps qui s'appelle Turbo Kid, puis qui jouait le plus longtemps possible sur l'ambiguïté justement entre est-ce qu'on a affaire à un être humain puis à une machine. Puis lorsqu'on découvrait que c'était un robot, finalement, ça remettait tout ça en question. Et puis, mais le suspense était conservé volontairement le plus possible pour garder ça intact, cette ambiguïté-là. Voilà, j'ai dit c'était bien.
There's a short story that I just wrote called Mika Model, and it's actually in the Utopial collection here, also in French. But the idea that I was interested in was specifically, what does a robot have to do to be taken seriously as if it's a person? And so in this particular case, the robot murders her owner, and then demands to be prosecuted as a murderer. She says, no, I murdered him. I killed him. And meanwhile, all the human beings around the robot are saying, no, you are a malfunctioning product. We might sue the company who made you, but you don't exist. You do not have any rights. And the robot keeps asking for a lawyer. And that's the specific conflict over, wait, you know, which way do you interpret this thing? Is it a person who had agency and made choices and murdered, or is it just a malfunctioning product?
La question qui se pose, c'est comment est-ce que la conscience pourrait venir aux machines? Et là, il y a un grand mystère là-dessus.
Et puis c'est la question de la responsabilité. Et la question de la responsabilité, c'est une question juridique, hein, actuellement. L'angle sous lequel on l'aborde, c'est effectivement à des spécialistes du droit de décider des critères. Mais on peut aussi retirer la responsabilité légale à un être humain. Et ça aussi, ça pose question souvent. Dans quelles conditions est-ce qu'on est jugé irresponsable au sens de la gestion de son patrimoine ou d'autres choses?
Bonjour. Donc ma question rejoint un petit peu les questions précédentes sur l'efficacité de la machine. Vous parliez d'inversion des valeurs sur l'empathie et l'efficacité. Et si jamais on continue donc dans cette voie de la machine qui sera efficace, ne pourrait-on pas dire finalement qu'on pourra se recentrer sur nous-mêmes, se recentrer sur notre empathie, et par conséquent que la machine finalement va finir par nous aider à devenir plus empathique, à devenir plus humain? Et je comprends que c'est un peu à contre-courant du discours, mais c'est une réflexion que je me faisais.
Pourquoi tout le monde se tourne vers moi? Est-ce que la machine nous aidera à être plus empathique? C'est ça la question. Alors, je n'ai pas de réponse à la question parce que de toute façon on ne sait pas ce que vont devenir les machines, mais pour l'instant je ne le pense pas. Je pense qu'il y a un recentrage sur l'humain à faire très très urgent et très important. Ça dépend de ce qu'on attribue à la machine comme fonction.
I mean, this is that interesting question of what do human beings do if we don't have to spend all of our time worrying about finding food and shelter and surviving. And I think that's sort of difficult to say. One of the things, though, that I've noticed already is that most of us are, you know, we already live in wealthy societies and we seem to spend an awful lot of time still not being empathetic. You know, in the very rich, in fact, the ones who don't have to work at all seem the least empathetic of all. So I wonder whether or not, I don't know what impulses actually drive us. I wonder sometimes if our empathy comes from our needing to do things and needing to take care of ourselves. And because we need to do that, we can connect with someone else who needs to take care of their needs. And that actually is the connecting tissue of humanity, is all of us needing to do things possibly together, working together. And if we don't have that, maybe we become more individualistic. And so I'm not sure. I actually wonder about that a lot. Why can't we be nice to each other? If we're doing so well, why can't we be nicer?
Moi, j'adore votre idée. J'adore votre idée parce que c'est le développement utopique que l'on peut imaginer. C'est, à mon avis, le seul développement utopique qu'on peut imaginer actuellement, redéfinir la valeur de l'humain à partir de l'empathie et déléguer tout ce qui est efficacité fonctionnelle aux machines pour en être débarrassé une fois pour toutes. Et oui, c'est une voie très très intéressante. Donc voilà, j'espère qu'un jour un grand auteur va s'emparer de ça et nous faire un magnifique roman de SF. Il y en a encore plein à écrire.
Bonjour. J'avais une question sur l'empathie qui était simplement, je m'étais posé à la base, comment fonctionnait l'empathie chez l'humain? Quelles étaient les interactions? Qu'est-ce qui nous prouvait que nous on était empathiques et qu'est-ce qui était cette conséquence? j'avais posé plutôt une question évolutionniste en me disant que c'était une récompense, c'est-à-dire que les humains qui étaient plus empathiques avaient plus de chances de survivre, donc plus de chances d'arriver à être présent. Donc le cerveau récompensait ceux qui étaient empathiques. Et donc l'empathie n'est qu'un moyen chimique pour vous dire, bien joué, continuez comme ça, vous avez plus de chances de survivre. Donc si vous êtes là présent aujourd'hui aussi, c'est grâce au fait qu'on est ensemble et qu'on a pu avancer ensemble. Donc on est empathique et qu'on a observé chez les autres des problèmes, qu'on a pu les solutionner, qu'eux aussi ont pu solutionner nos problèmes et donc avancer ensemble. Est-ce que la machine ne peut pas lire ces mêmes choses et donc venir nous aider? Donc de voir l'empathie en fait comme une sorte de réaction chimique plutôt qu'une réaction juste émotionnelle et spirituelle. Quelles sont les réactions humaines et donc liées à ça à la machine? Donc de venir plutôt de la base, qu'est-ce que l'empathie chez l'humain et comment l'amener à la machine?
Là, vous posez la question fondamentale qui est celle de l'esprit et de la matière. Est-ce que c'est la matière qui produit l'empathie ou est-ce que c'est autre chose? Est-ce que la conscience est produite par le cerveau ou est-ce qu'elle est indépendante du cerveau? Et c'est la question que posent les religions et la science qui penche plutôt pour le côté matériel des choses, la religion pour le côté plutôt spirituel, bien que encore une fois la religion soit une captation matérielle aussi à mon avis de la spiritualité. Alors voilà, après c'est selon la croyance en cette origine la conscience matière, est-ce que si la conscience est indépendante de la matière, alors on est dans vraiment une autre optique, on est dans une sorte de ce que je disais tout à l'heure, de trame humaine qui crée une sorte d'empathie. Sinon, alors vous parlez de darwinisme quasiment, hein, c'est-à-dire une adaptation matérielle à des circonstances, et là on est dans une autre optique. Je préfère la première solution, je vous le dis tout de suite. La pensée matérialiste ne m'intéresse pas parce que je la trouve finie. Et je la trouve finie dans les machines. Les machines, c'est la pensée matérialiste incarnée. Alors, peut-être que je me plante complètement, mais je m'en fous. Si j'explore une autre voie, qui est la voie spirituelle. Pour moi, la vraie spiritualité, c'est de conduire à l'empathie et à la connaissance des autres êtres humains. Et dans tous mes livres, j'essaie d'explorer ça. C'est un pari, il est peut-être faux, mais l'autre forme de pensée ne m'intéresse moins parce que, voilà, c'est, à mon avis, faire dépendre son évolution d'éléments extérieurs, comme le darwinisme. Donc cette pensée-là m'intéresse beaucoup moins.
Très rapidement, alors, si réfléchir aux machines, ça nous aide à réfléchir à ce qu'est l'humanité, tant mieux. Moi, je suis peut-être pas spirituelle exactement au sens où l'entend Pierre, mais j'ai beaucoup de respect pour la vie et je suis très intéressée à ce qu'on réfléchisse à la conscience. Maintenant, il y a deux manières de le faire. Il y a une manière qui consiste à dire les machines, c'est fondamentalement de même nature que les humains, donc retournons la réflexion et on n'a plus qu'à dire que les humains, fondamentalement, ça marche comme des machines. Et tout se ramène à quelque chose de mécaniste. Je trouve ça terrifiant comme perspective. Et il y a une autre approche qui consiste à dire on sait ce qui relève d'une approche mécaniste et jusqu'où on peut aller. Et il y a un autre aspect du biologique qui relève d'autres processus, d'autres logiques et qui ne se réduit pas à des processus chimiques. Et remettons ça au centre. Alors on peut l'appeler de la spiritualité, bien. On peut l'appeler autre.
Alors qu'est-ce que la conscience? Qu'est-ce que l'humain? Quel est le rapport entre l'esprit et la matière? Ces questions durent depuis des siècles, les philosophes ne les ont pas résolues, nous ne les résoudrons pas aujourd'hui. Nous sommes même en retard sur l'horaire à table ronde. Je remercie donc les intervenants, je remercie le public et je vous rappelle qu'ils vont signer dans la librairie.